take you to Papalata. If I ever, oh baby, if I ever, baby, you too sweet. If I ever, I take you dancing to Tilapata.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 11 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En Côte d'Ivoire, au moins 10 soldats ont été tués dans une attaque contre une base militaire à la frontière avec le Burkina Faso. Au Burundi, le Conseil des ministres saisit la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate la vacance du pouvoir suite au décès de Pierre Nkurunziza. La France apporte plus de précisions sur la mort d'Abdelmalek Droukel, chef du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué dans le nord du Mali. Au Cameroun, 3 militaires ont été inculpés d'assassinat pour la mort de civils en zone anglophone en février. Covid-19, les États-Unis ont passé le cap des 2 millions de personnes infectées avec plus de 113 000 décès. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au moins 10 morts et plusieurs blessés dans une attaque dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des hommes armés ont visé un poste militaire à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso, la nuit dernière. Le point avec Siriki Baro, notre correspondant à Bouek.
Une dizaine de morts, 6 blessés et un assaillant neutralisé. C'est le bilan provisoire donné dans un communiqué du chef d'état-major ivoirien, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Dans le même communiqué, le chef d'état-major ivoirien annonce qu'une enquête est en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. Une opération Komoé avait été lancée en mai par les troupes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour combattre les djihadistes qui sévissent en Afrique subsaharienne. Une autre opération militaire conjointe entre les deux forces armées, il y a quelques semaines, avait permis la destruction de la base terroriste d'Aligadou en terre burkinabé et l'interpellation d'au moins 38 suspects. Si la piste d'une attaque djihadiste se confirme, il s'agirait de la seconde attaque d'envergure sur le sol ivoirien après les attentats de Grand Bassam en 2016. Une attaque qui a fait 19 morts. Siriki Baro, Bouaké, pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce jeudi par visioconférence pour discuter de la situation au Mali en vue des négociations pour le renouvellement de la MINUSMA. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du pays. Il a indiqué que des groupes terroristes et criminels continuent d'étendre leurs activités et d'exploiter les tensions intercommunautaires qui existent de longue date. Le secrétaire général de l'ONU a reconnu que la pandémie de COVID-19 complique une situation déjà extrêmement difficile. Pour lui, les groupes terroristes et d'autres groupes armés tentent de tirer profit de la pandémie. Le représentant de l'Union africaine au Mali, Pierre Bouyoya, dit soutenir la position du secrétaire général consistant à renouveler le mandat de la MINUSMA sans une baisse de ses effectifs. Les récentes manifestations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta se sont également invitées dans les débats. Pierre Bouyoya souhaite que les autorités maliennes organisent les élections partielles dans les circonscriptions où elles n'ont pas pu se tenir. Antonio Guterres souhaite que les demandes de la société civile sur la gouvernance et la lutte contre l'insécurité soient prises en compte par le gouvernement. Quant au chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, il appelle le gouvernement malien à mener des enquêtes sur les massacres de civils comme il l'avait promis.
L'armée française a fourni des détails sur la neutralisation dans le nord du Mali du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Abdelmalek Droukdel était présenté comme troisième adjoint d'Ayman al-Zawahiri, le chef suprême d'Al-Qaïda. Nani Talani.
D'après la ministre française des armées Florence Parly, la mort de l'Algérien Abdelmalek Droukdel est avant tout le fruit d'un minutieux travail de renseignement et d'une traque conclue par une intervention en plein jour. Une quinzaine d'hommes, membres des forces spéciales, ont été déposés par des hélicoptères à l'est de la ville malienne de Tessalit, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. L'armée française ne donne pas les détails de l'opération, se bornant à décrire des combats rapprochés après une traque de 48 heures. Quelques images distribuées aux journalistes ne précisent pas non plus la chronologie de l'assaut. Les identités des cibles viennent sans dévoiler l'origine des informations, mais confirment l'aide des États-Unis. Outre le seul prisonnier remis aux autorités maliennes, les soldats ont saisi des téléphones, des cartes et un ordinateur qui permettront peut-être d'expliquer ce que Drukdal, extrêmement discret, faisait dans la région.
Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se dit attristé par le décès le 9 juin de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Simon Encho, et présente ses condoléances à ses proches. Monsieur Encho a travaillé sans relâche avec les dirigeants et citoyens de Guinée pour promouvoir le développement économique inclusif, la démocratie, la tolérance et le respect des droits humains, a déclaré Monsieur Pompeo. En RDC, une peine de 20 ans de prison a été requise par la justice contre Vital Kamerhe. Le procureur a requis également 10 ans de déchéance des droits civiques de M. Kamerhe, jugé avec deux co-accusés pour détournement de fonds publics. La même peine de 20 ans a été requise contre l'entrepreneur libanais Jamal Sami, que le parquet souhaite voir quitter le territoire congolais après la prison. Une peine supplémentaire de 15 ans a été requise pour les deux pour corruption aggravée. Au Cameroun, 3 militaires ont été inculpés d'assassinat pour la mort de civils en zone anglophone dans le nord-ouest du pays. L'armée avait initialement parlé d'un malheureux incident avant que Yaoundé n'admette en avril qu'au moins 10 enfants et 3 femmes avaient été tués le 14 février par des militaires et une milice Peule dans le village de Ntumbo. L'ONU avait évoqué la mort d'au moins 23 civils. Réuni ce jeudi en séance extraordinaire, le Conseil des ministres du Burundi a demandé à la Cour constitutionnelle de définir la marche à suivre après le décès lundi du président Pierre Nkurunziza. La réunion, présidée par le premier vice-président Gaston Sindimwo, a saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate la vacance de poste présidentiel. Pierre Nkurunziza devait achever son mandat le 20 août et passer le témoin à Évariste Ndayishimiye, vainqueur de la présidentielle du 20 mai. L'ONG internationale Mercy Corps a été la cible d'une vaste fraude organisée dans l'est de la RDC. Des commerçants locaux corrompaient des travailleurs humanitaires pour gonfler les chiffres des bénéfices de l'aide, révèle l'agence de presse The New Humanitarian. Selon une enquête de ce média spécialisé, près de 640 000 dollars ont été perdus par Mercy Corps, qui est active dans les deux Kivus. La Turquie s'est déclarée favorable à un cessez-le-feu parrainé par les Nations Unies en Libye, rejetant un appel à la trêve de l'Égypte. Ankara a dit estimer que la proposition égyptienne n'était pas réaliste, ajoutant sa préférence pour un cessez-le-feu contraignant placé sous les auspices de l'ONU, a souligné le chef de la diplomatie turque Mevlut Gasovuglu. 52 migrants sont morts dans le naufrage d'un bateau au large de la Tunisie, selon un nouveau bilan annoncé par le gouvernement tunisien. D'après les témoignages, ils se trouvaient à bord d'une embarcation clandestine partie de la ville tunisienne de Sfax en direction de l'Italie dans la nuit du 4 au 5 juin avec 53 personnes à bord. 13 nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui au large des îles Kerkena. 3 policiers kényans ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo sur laquelle on les voit traîner derrière une moto une femme en partie dénudée et molestée. L'incident s'est produit dans le comté de Kuresoi South, au nord-ouest de Nairobi. La victime était accusée de s'être introduite dans la maison d'un agent de police.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont passé le cap des 2 millions de personnes infectées par le coronavirus avec plus de 113 000 décès, tandis que les contaminations diminuent en Europe. Eric Manirakiza.
Après la Chine et l'Europe, c'est l'Amérique qui est le nouvel épicentre de la pandémie. Le virus a déjà fait 70 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont près de 40 000 au Brésil. Les États-Unis sont le pays le plus touché et continue à enregistrer autour de 20 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Les plages de Miami ont néanmoins ouvert mercredi, mais il faudra du temps avant que ne reviennent les 7 millions de touristes que Miami Beach recevait chaque année. En Europe, les nouvelles hospitalisations et les nombres de décès sont en chute libre. Bruxelles a préconisé la levée de toutes les restrictions de voyage au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen dès le 15 juin, et la réouverture de ses frontières extérieures dès le 1er juillet aux voyageurs des Balkans. Cette crise sanitaire a mis au chômage des millions de personnes et les annonces de suppression d'emplois se poursuivent. Au niveau mondial, la récession sera d'au moins 6% selon l'Organisation de coopération et de développement économique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le service de la dette du Sénégal sera allégé de quelque 137 millions d'euros cette année grâce à un moratoire décidé par les pays du G20. Le paiement du principal et des intérêts dus aux créanciers publics est suspendu jusqu'au 31 décembre 2020 pour un montant de 90,57 milliards de francs CFA, soit 13,51% du service de la dette extérieure. Pour l'État sénégalais, c'est un ballon d'oxygène qui servira à lutter contre les conséquences du coronavirus. L'Éthiopie veut limiter le rôle des observateurs dans les négociations sur le barrage de la Renaissance après la tentative des États-Unis d'imposer en février un accord sur les règles du remplissage et d'exploitation du barrage. Le ministre éthiopien de l'eau, Selechi Bekele, a déclaré ce jeudi que les parties tierces ne devraient pas aller au-delà de l'observation des négociations et du partage des bonnes pratiques. Il a également critiqué l'initiative de l'Égypte d'envoyer en mai une lettre à l'ONU détaillant ses griffes. Pour M. Bekele, c'est une tentative pour faire la pression sur Addis Abeba. Pour terminer, le trafic aérien ne reviendra pas à son niveau de 2019 avant 2023. Avec une reprise très progressive du trafic, les revenus seront limités. Selon Bertrand Mouly-Aigro, spécialiste du secteur aéronautique, certaines compagnies, comme celles américaines ou chinoises, peuvent s'appuyer sur un imposant marché domestique. Mais le trafic domestique n'a pas la même rentabilité que le long courrier.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le championnat nord-américain de football reprendra le 8 juillet avec les 26 équipes réunies pour un tournoi à huis clos à Orlando en Floride. Le tournoi intitulé MLS is back, entendez, la MLS est de retour, devrait se dérouler jusqu'au 11 août à Disney World. Les rencontres qui y seront disputées sous le format d'une phase de groupe compteront pour la saison régulière de MLS, arrêtée en mars après seulement 2 semaines de compétition. Les joueurs seront soumis à un protocole médical et devront notamment passer des tests du COVID-19 chaque veille de match. Les équipes commenceront à arriver à Orlando le 24 juin pour des entraînements de pré-saison et devront être sur place au moins 7 jours avant leur premier match. Chaque club disputera au moins 3 rencontres durant ce tournoi au format inspiré de la Coupe du Monde avec une phase de groupe puis des matchs à élimination directe. Football, toujours, la candidature conjointe de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour organiser le mondial féminin en 2023 apparaît mieux armée face au Japon et la Colombie, selon le rapport d'évaluation rendu public par la FIFA. Le dossier porté par les deux nations d'Océanie a reçu la meilleure note globale 4,1 sur 5, devant le Japon 3,9 et la Colombie 2,8. Écrit la FIFA dans ce document censé éclairer le vote final de son conseil le 25 juin. Dans son rapport d'évaluation, la FIFA liste des points forts de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, au premier rang desquels, je cite, une gamme d'options de qualité en termes d'infrastructures sportives et générales et un engagement financier garanti par les deux pays. Le dossier prévoit un match d'ouverture à Auckland et une finale à Sydney pour cette première Coupe du Monde à 32 équipes, contre 24 lors de la dernière édition 2019 en France. Athlétisme, jugé à Paris pour corruption, l'ancien patron mondial de la discipline Lamine Diack a assumé la décision d'échelonner des sanctions contre des Russes dopés pour sauver la santé financière de la Fédération internationale, dit-il. Depuis lundi, le Sénégalais de 87 ans est jugé avec 5 autres personnes, dont son fils Papa Massata et Gabriel Dolé, l'ancien patron de l'Agence mondiale antidopage. Seuls Lamine Diack et Dolé ont répondu présents au procès. Ils sont accusés d'avoir permis de retarder des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage fin 2011 sur fond de négociations de sponsoring avec la banque d'État russe VTB et la chaîne russe RTR en vue des mondiaux de Moscou 2013. Par contre, Lamine Diack a su ne pas avoir été au courant du chantage financier exercé auprès d'athlètes russes dopés contraint de débourser plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir bénéficier d'une protection.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Retour sur l'attaque ce matin d'un poste militaire à Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque a fait une dizaine de victimes selon l'état-major de l'armée ivoirienne. Est-ce un nouveau front pour les mouvements djihadistes du Sahel ? Bagassi Koura a joint Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies à Dakar.
Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a subi des attaques. On se rappelle de Grand Bassam, qui, à mon avis, était un des signaux de la régionalisation de la menace à partir des attaques qui sont abattues sur le Burkina d'abord, et puis avant de s'étendre. Et je crois que là, c'est un signal assez fort à ces pays côtiers qui doivent de plus en plus prendre au sérieux la menace djihadiste. Sachant que récemment, on a eu quelques problèmes avec le Togo et que d'autres pays aussi seraient sur la ligne de ces groupes qui, naturellement, ont toujours considéré le Burkina Faso non pas comme une étape finale, mais une étape intermédiaire pour étendre leur tentacule sur tout ça.
Quelle va être la réponse des États qui se sont particulièrement concentrés sur les trois pays, Burkina, Mali, Niger? Est-ce qu'il faudra revoir toute la stratégie?
Il y a des approches qui doivent être différenciées. Ça fait longtemps que je disais que ces pays-là, les pays côtiers, étaient dans une situation où ils pouvaient développer encore des stratégies de prévention basées sur des mesures qu'ils devaient prendre, mais aussi favoriser la prévention de l'extrémisme violent lui-même, pour que ces groupes-là ne puissent pas prendre racine et qu'il n'y ait pas des terreaux favorables à cette idéologie-là. Et donc, je crois qu'il faut désormais prendre à bras le corps cette menace-là, non pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan d'une prévention de l'extrémisme violent qui devient une véritable problématique à prendre en charge dans ces pays-là.
Il y a d'autres pays qui sont vulnérables.
On se rappelle de cette prise d'otage jusqu'au Bénin à partir du Burkina Faso. On se rappelle aussi récemment les opérations ratées au nord du Togo, mais aussi tous les pays, à mon avis, qui sont frontaliers aussi bien du Mali et du Burkina Faso devraient prendre leur garde, et que sachant que cette menace-là n'est pas circonscrite quelque part, elle a une dimension forcément transnationale, et donc la régionalisation de la menace est une réalité à prendre en compte aujourd'hui.
Bakary Sambé du Timbuktu Institute était joint à Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Suite au décès lundi du président burundais Pierre Nkurunziza, les ministres se sont réunis ce jeudi en conseil extraordinaire convoqué par le secrétaire général du gouvernement. La question de la vacance du pouvoir est d'autant plus cruciale que le pays traverse une phase de transition avec un président élu, Évariste Ndayishimiye, qui n'a pas encore pris ses fonctions. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Kigali Gérard Birandamje, professeur de sciences politiques.
Je n'en sais pas trop sur ce qui a été décidé dans ce conseil des ministres. Du moment que le compte rendu qui sanctionne ce conseil n'est pas encore rendu public par le secrétaire général du gouvernement, mais au regard de l'invitation, il était clair qu'il était question de gérer, de travailler sur la gestion, en fait, de la situation après la mort inopinée du chef de l'État. Alors, je me dis que, entre autres, résolution du Conseil figurera bien évidemment le fait de déclarer la vacance de la présidente de la République à la Cour constitutionnelle et inviter cette dernière à lire la loi fondamentale sur cette matière précise que la gestion de la courte transition qui va jusqu'au 20 août 2020.
Beaucoup se posent la question comment la succession de Nkurunziza va se passer, notamment au niveau des textes. Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Sur le plan légal, moi je vois des principaux obstacles qui peuvent retarder la mise en place de l'institution présidentielle. D'une part, nous avons deux textes qui régissent le Burundi. C'est vraiment assez inédit dans l'histoire contemporaine du Burundi, même de bien des États. Nous avons la constitution de 2005, de mars 2005, et la constitution de juin 2018. Certes, ces deux textes ont en commun l'article 121 qui statue sur la gestion de la vacance de la présidence. Et dans les deux cas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure la transition. Ça, c'est vraiment une interprétation restrictive. Le deuxième souci au niveau des textes légaux, c'est que ce décès est un imprévu. C'est un imprévu pourquoi? Parce que ni la constitution de mars 2005 ni celle de juin 2018 n'a prévu le cas de la vacance de poste de président en exercice au moment où son successeur a été élu. Et je ne vois pas personnellement sur quelle base juridique la Cour constitutionnelle pourra statuer pour départager le président de la transition, donc qui se veut être le président de l'Assemblée nationale en exercice, et le président élu en attente d'investiture.
Quelles sont les personnalités clés qui dirigent le Burundi dans cette période de transition?
Donc, autant dire que le président pressenti pour assurer la transition n'a pas encore été investi, et encore moins celui qui a été élu. Donc, la situation reste préoccupante et doit être gérée au niveau du gouvernement dans sa collégialité.
Gérard Birantamji est professeur de sciences politiques à Kigali.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
La pandémie de coronavirus et la fermeture des écoles au Nigeria a entraîné l'augmentation du nombre d'enfants qui travaillent. En effet, depuis le début du confinement, plus d'enfants travaillent comme colporteurs, nettoyeurs ou mendient dans les rues en ville pour aider leurs familles. Un récit de Claire Morin-Gibourg sur un reportage de Timothy Obiezu à Abuja.
Âgé de 15 ans, Aboubakar Mohamed a repris le travail dans un atelier d'Abuja où il apprend la menuiserie et la fabrication de meubles depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, avec la fermeture de son école en raison du coronavirus, il travaille à plein temps pour subvenir aux besoins de sa famille en espérant retourner bientôt à l'école.
L'école me manque. Je reste juste ici le temps que le coronavirus disparaisse. Je reste ici pour gagner de l'argent, mais quand l'école reprendra, je vais retourner en classe.
Aboubakar vit dans un foyer polygame et il a 5 petits frères et sœurs. Sa mère est contente de son soutien et dit l'avoir poussé vers l'apprentissage d'un métier.
Je lui ai dit d'apprendre un travail manuel parce qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Et lorsque son père ne sera plus, il pourra s'occuper des plus jeunes.
Au Nigeria, le travail des enfants est interdit depuis 2003, mais la pratique est encore répandue parmi les pauvres du pays. Valentine Ndzi est propriétaire de l'atelier où Mohamed et 6 autres garçons tentent de joindre les deux bouts.
Si leurs parents veulent les amener pour travailler sous notre responsabilité, nous ne collectons pas d'argent. Nous regardons leurs compétences, nous ne prenons pas d'argent parce que peut-être qu'à la fin, les garçons ne vont pas rester. S'ils sont sérieux, c'est en ce moment-là que nous négocions. C'est ce que nous voulons.
L'Organisation internationale du travail estime que 15 millions d'enfants nigérians font partie de la population active, le chiffre le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. L'OIT affirme que le relâchement des mesures de confinement par le Nigeria, tout en fermant les écoles, a déclenché une augmentation rapide du taux de travail des enfants. Agatha Kalawole est responsable du programme national de l'OIT pour accélérer l'élimination du travail des enfants.
Maintenant que le confinement a été réduit, au moins nous pouvons nous déplacer. Ces enfants travaillent pour joindre les deux bouts, pour prendre soin de leur famille et pouvoir leur fournir de la nourriture. Actuellement, nous avons certainement plus d'enfants travaillant comme ouvriers.
Les défenseurs du droit des enfants affirment que la pauvreté, les traditions sont les principaux obstacles à l'élimination du travail des enfants au Nigeria. Les autorités nigérianes ont introduit des modules d'éducation en ligne pour garder les enfants occupés pendant cette période. Cependant, beaucoup, comme Mohamed, n'ont pas accès à l'enseignement en ligne. Ils vont donc continuer à servir de main-d'œuvre en attendant la réouverture des écoles.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le département d'État américain a publié son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde. Le secrétaire d'État Mike Pompeo épingle notamment la Chine, l'Iran, le Nigeria et d'autres pays pour des violations de la liberté de religion. Un reportage de Cindy Sain, relaté par Chérubin Dorsil.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré qu'en Chine, la répression parrainée par l'État de toutes les religions s'intensifie.
Le Parti communiste chinois ordonne aux organisations religieuses d'obéir à la direction du PCC et d'insulter le dogme communiste dans leurs enseignements et la pratique de leur foi. Les détentions massives de Ouïghours au Xinjiang continuent. Pareil pour la répression des Tibétains et des bouddhistes, du Falun Gong et des chrétiens.
La Chine a rejeté ces critiques comme une ingérence dans ses affaires intérieures et a déclaré que son vaste réseau de centres de détention au Xinjiang est utilisé pour la formation professionnelle. La publication du rapport du département d'État sur la liberté de religion en 2019 intervient alors que le monde est le théâtre de manifestations massives contre le racisme et la brutalité policière ici aux États-Unis. Interrogé sur l'autorité morale des États-Unis pour juger d'autres nations, Mike Pompeo répond que les États-Unis affrontent frontalement l'injustice, contrairement à la Chine.
When something is as tragic and as awful as what happened to George Floyd takes place,
lorsque quelque chose d'aussi tragique et d'aussi horrible que ce qui est arrivé à George Floyd survient, le gouvernement réagit. Et nous avons vu les forces de l'ordre local et notre ministère de la Justice agir très rapidement pour remédier à cette situation particulière.
Ailleurs dans le monde, des responsables américains pointent du doigt le Nigeria, où le groupe État islamique et Boko Haram continuent d'attaquer sans distinction les musulmans et les chrétiens. Sam Brownback, ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse dans le monde, a appelé à l'action lors de la réunion d'information mercredi au département d'État.
I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria.
Je suis profondément préoccupé par ce qui se passe au Nigeria en raison de l'escalade de la violence et du carnage et de l'absence de réponse efficace de la part du gouvernement. Nous avons vraiment besoin que le gouvernement nigérien agisse et agisse beaucoup plus efficacement dans son espace.
Monsieur Brownback a également déclaré que l'Arabie saoudite, à majorité musulmane et sunnite, reste un pays particulièrement préoccupant, car c'est le seul au monde où il n'existe pas une seule église.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le pouvoir malien sous pression. Des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Bamako à l'appel de l'influent imam Mahmoud Diko la semaine dernière pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces manifestations se tiennent dans un contexte sécuritaire alarmant dans le centre du pays, mais aussi en pleine crise économique et sociale. Nous ferons le point sur la situation politique et sécuritaire au Mali avec nos invités ce jeudi 11 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est la la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes.